Bien, bonsoir. Donc c'est cette troisième séance, troisième et dernière séance de ce premier cycle. J'essaierai de répondre aux questions qui sont restées en suspens, dans la mesure où je les ai entendues. Sinon, il faudra les reformuler. Et bien entendu, vous pourrez en poser d'autres. Le premier point que je voudrais mentionner avant de commencer à traiter le sujet lui-même, c'est un enseignement connu de Rabbi Chaim de Volozhin qui dit que dans Pirkei Avot, quand Pirkei Avot dit Da ma le ma'ala mimcha, sache, connais ce qu'il y a au-dessus de toi, c'est comme ça qu'on traduit d'ordinaire. Rabbi Chaim de Volozhin donne une traduction absolument extraordinaire. Il dit Dama le Ma'ala, sache que tout ce qui est en haut, Mimcha, vient de toi. C'est très audacieux comme formulation. Et pour ce qui nous concerne ce soir, ça met en avant le fait que nous devons travailler dans le sens de la reconnaissance de nous-mêmes. Cette idée de reconnaissance, elle est inscrite dans le nom de Yehudim, dans le nom de Yehuda, qui veut dire reconnaître, avec en Lashna Kodesh comme en français la même ambiguïté, être reconnaissant et reconnaître une dette, reconnaître, mais connaître ses qualités, ses défauts, etc. Et on va voir que le travail va nous aider à reconnaître ce que nous sommes, à nous reconnaître comme tel. C'est un premier point. Ce travail, on a vu lors de Pourim que le travail essentiel avait été un travail de prière. La prière, c'est une tâche qui a été assignée donc au Bnei Israël, aux Juifs et aux autres d'ailleurs, et aux non-Juifs aussi, et la possibilité pour les Juifs, l'obligation d'exprimer le projet en quelque sorte et de reconnaître que seul je ne peux pas le réaliser tout en étant néanmoins responsable de ce projet. On doit dire, parce qu'on est responsable, le monde a des besoins, et on s'adresse à Hachem et on lui dit « tu dois », on lui parle à l'impératif. Mais évidemment, je reconnais que tu es seul à pouvoir, je sais bien que tu es seul à le pouvoir, et du coup, ça nous oblige à prendre dans cette prière, sur le mode impératif, un ton suppliant. Qu'est-ce qu'on construit en disant à Hachem « le monde a des besoins » En fait, on construit le futur. Alors, je vais peut-être tout de suite donner un exemple sur lequel on reviendra peut-être, de deux notions de futur. Il y a dans les 39 melachot, dans les 39 travaux qui sont interdits le Shabbat, je reviendrai là-dessus, je voudrais en choisir deux qui jouent un rôle très important par rapport à cette notion de futur. L'un, c'est Zoréa, c'est semer, et l'autre, c'est Ophé, c'est cuire du pain. Ces deux melachot, ces deux travaux ont en commun que on fait quelque chose, on fait un geste, on met une graine en terre, où on met le pain dans le four, un four allumé. Et puis ensuite, l'action de l'homme s'arrête. Mais la mlacha elle-même, si jamais il y avait extinction du four, ou si un animal creusait et extrayait la graine, on n'aurait pas transgressé l'interdit de cuire du pain ou de planter, enfin de semer une graine par exemple. Mais ce travail se fait en dehors de nous. C'est-à-dire, on met en marche, on va dire un processus, puisque c'est le terme qui a été utilisé, je crois, la semaine dernière, on met en marche un processus, mais il y a une grande différence entre ces deux melachot, entre ces deux mises en marche de processus. Dans la mise en marche du processus de Ofé, une fois qu'on a mis le pain dans le four, il n'y a que du temps qui doit passer, c'est tout. Le four est allumé, on a besoin il faut seulement que le temps passe, et à ce moment-là, le pain va cuire. Quand on sème, il ne suffit pas que le temps passe. Il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'il y ait de la pluie, il faut qu'il y ait toutes sortes de conditions, il faut peut-être du vent, il faut toutes sortes de conditions supplémentaires pour qu'effectivement cette graine qu'on a mise en terre donne quelque chose. Je crois qu'on a là deux exemples d'un futur. Un vrai futur, c'est celui de Zoréa. Un futur, on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, mais on a besoin qu'il se passe certaines choses qu'on ne maîtrise pas du tout. Ça, c'est un vrai futur. On met en marche un processus et on construit d'une certaine manière un certain futur, mais c'est la construction de base. On n'a pas construit la totalité du futur. Et puis, il y a un faux futur parce que tout est déjà là, qui est celui de Ofé. Dans le pain, bien sûr, il faut du temps simplement, mais le temps ne doit rien apporter de particulier. On n'attend pas quelque chose de nouveau, il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'on attend. On attend rien, en fait. On attend que ça passe. Et ça, c'est pas un vrai futur. Vous me direz, dans cette mise en marche du processus, on n'a pas fait grand-chose pour construire le futur. On a mis en marche un processus de futur. On verra que, par exemple, dans la prière, dans la tefila, on est en charge du futur, on doit fabriquer du futur, un vrai futur, dont on n'a aucune idée, on ne sait pas. C'est chaque jour quelque chose de nouveau qui doit être fait. On ne sait pas à l'avance exactement ce qu'on doit faire, mais on doit construire ce futur. C'est-à-dire, il ne suffit pas de l'avoir mis en marche, il ne suffit pas, disons, d'avoir prié une fois et puis ensuite on laisse aller. On doit suivre le développement, et peut-être qu'il faut reprier, peut-être qu'il faut prier différemment. Alors, ce modèle de travail, en fait, travail par la prière, c'est un travail dont Chachamim disent que c'est la humanout de nos ancêtres. C'était le savoir-faire, l'artisanat littéralement, de nos ancêtres. Et c'est quelque chose qu'on est appelé, qu'on est invité à réutiliser sans cesse. Juste ceci pour commencer. Bien entendu, la prière fonctionne avec une parole et on va voir le rôle, vous avez déjà vu le rôle de la parole, on va le voir spécifiquement dans les mlachot justement. On peut dire qu'il y a donc deux sortes de travaux. Il y a un travail qu'on appelle avoda et un travail qu'on appelle melacha. Je vais commencer par le travail qu'on appelle melacha. Melacha, c'est en parenté avec malach. Un malach, c'est, on dit un ange, mais c'est un envoyé d'Hachem pour agir, pour faire quelque chose de bien précis. Alors, on va voir de quoi il s'agit. La construction du Mishkan, qui est le modèle à partir duquel nous travaillons, ça a déjà été dit, je ne vais pas le répéter, mais la construction du Mishkan commence par la collecte des matériaux qui sont nécessaires pour cette construction. Et on est tout de suite frappé par un double mouvement, en fait, dans cette collecte. On fait la... Les psukim disent qu'on s'adresse à celui chez Yidveno Libo, celui que son cœur porte à donner, en quelque sorte. Donc, on veut un mouvement de don, c'est-à-dire quelqu'un qui donne parce qu'il a envie de donner. Ça correspond à quelque chose de profond, de vrai en lui. Et en même temps, on dit « yikru li », on prend. Prendre, ça veut dire même à son corps défendant. Et donc, il y a une ambiguïté dans ce don. C'est à la fois quelque chose qui est demandé, enfin, on dit au collecteur « il faut prendre », mais il faut prendre chez ceux qui ont envie de donner, ceux qui donnent de bon cœur, c'est-à-dire il y a une indépendance. Yidveno Libo, on a l'impression, si tu n'as pas envie de donner, tu ne donnes pas, mais il y a aussi Ikrouli, une obligation de donner. Alors ce qui est très important, c'est que la malacha que nous avons appelée jusqu'à présent travail, eh bien ce mot malacha, dans ce contexte-là, il ne désigne pas directement le travail. Le mot melacha, dans ce contexte, il désigne l'ensemble des matériaux collectés. Le pasuk dit Ve amlacha haita daya, c'est-à-dire on avait assez de matériaux récoltés. On a ramassé assez de matériaux. Donc le mot melacha, que nous utiliserons par la suite, comme on l'a fait jusqu'à présent, pour désigner un certain travail, désigne dans ce texte-là, initialement, quand on prend le texte tel qu'il se lit, de façon en vie, ça désigne le matériau lui-même, les matériaux qui sont collectés. Et non seulement ça, c'est que quand, dans la Gemara, on a cherché à montrer que ce que Pankar a présenté la semaine dernière comme étant une melacha groua, c'est-à-dire une melacha dont il est difficile de comprendre pourquoi elle est une melacha, parce qu'elle ne transforme pas l'objet sur lequel elle agit, qui s'appelle hotsaa, c'est-à-dire faire sortir un objet de chez soi dans le domaine public, donc du domaine privé dans le domaine public. D'où est-ce qu'on sait que ce geste-là, d'où est-ce qu'on sait que c'est une melacha sur laquelle on est, comme on dit, chayav, c'est-à-dire une melacha qui est sanctionnée si elle est accomplie Shabbat? Eh bien, c'est à partir de ce verset-là. Justement, à partir de ce verset, avec une construction très complexe, il faut le dire, que la Gemara montre que la Hotsaa est une melacha. Alors, le malach, si vous voulez, le masculin de melacha, et je vous l'ai dit, c'est un chaliar, c'est un envoyé d'Hachem pour faire reconnaître la grandeur d'Hachem, pour agir au nom d'Hachem, et donc faire reconnaître la grandeur d'Hachem. Et la melacha apparaît donc elle-même comme un chaliar, c'est la version féminine, si on veut, et le travail melacha, pour l'instant, on met de côté la remarque sur le fait que c'est le matériau, mais le travail melacha lui-même, et donc l'envoyé d'Hachem, il est là, ce travail, il est là pour faire reconnaître la grandeur d'Hachem. Et c'est là sa valeur. Sa valeur, c'est, on s'est demandé quelle était la valeur du travail, en fait, ici, la valeur de ce travail, c'est le fait qu'il est là pour faire reconnaître la valeur d'Hachem. La collecte des matériaux, elle va se faire, il va y avoir transformation physique de ces matériaux. On amène de l'or, de l'argent, de la laine, de la soie, enfin du coton, du lin. Ça va être travaillé, bien entendu, ça va être tissé, ça va être noué, ça va être travaillé comme le métal. Et on va donner une kedusha, une sainteté à ce matériel, à ces matériaux. Comment est-ce qu'on donne de la sainteté au matériel en question? Ça se fait par une onction. C'est aussi un geste. Il y a un geste d'onction. Et puis, il y a, par la suite, ça c'est seulement à l'inauguration, mais par la suite, la mise en service simplement de l'objet vaut onction, elle vaut donation de Kedusha. On le fait fonctionner normalement. Si on regarde ce que ça veut dire pour Shabbat, on verra que la melacha, ce doit être, c'est un geste qui doit être libre, c'est-à-dire un geste d'artisan. C'est aussi un geste où l'homme qui le fait est un artisan, il est libre. C'est un geste d'homme libre, un geste libre d'homme libre. C'est-à-dire, en fait, il n'agit pas pour quelqu'un, sous la contrainte d'agir pour quelqu'un. S'il est contraint d'agir, alors il n'est pas considéré comme ayant transgressé le Shabbat. La vraie melacha, c'est donc la hotzara, c'est le fait de faire sortir un objet de chez soi, de son domaine privé, dans le domaine public, c'est-à-dire dans le monde, veut dire que c'est dans le monde que cette reconnaissance de la grandeur d'Hachem doit se faire. Il ne suffit pas de le faire à l'intérieur, chez soi. Mais bien entendu, ça ne peut se faire que si on apporte de chez soi le matériau, c'est-à-dire comme si c'était soi-même qu'on apportait. Et d'ailleurs, la Gemara, qui est absolument extraordinaire dans ces sujets-là, elle dit que l'interdit d'amener ce matériau, il y a une autre lecture que celle que je vous ai rapportée. Cette autre lecture, elle se base sur un verset qui dit Al yetze ish mimkomo, qui dit que Shabbat, l'homme ne doit pas sortir de son lieu littéralement. Là où il est, il doit rester. Et la Gemara dit, mais ça parle de l'homme. La Gemara dit, il faut lire Al yotzi ish mimkomo, que l'homme ne doit pas sortir quelque chose de son lieu. Par conséquent, on voit très bien qu'on a passé de l'homme à l'objet. Alors que le verset parle clairement de l'homme, n'est-ce pas ? On en a fait un verset qui nous dit l'interdit de faire sortir un objet de chez soi. Donc quand on disait que, quand je disais que, en fait, ce qui se dit sur l'objet, en fait, veut dire qu'une certaine manière, s'il faut l'amener de chez soi, c'est d'une certaine manière ce qu'il fallait amener pour faire connaître la grandeur, pour faire reconnaître Hachem, ce qui est une façon de se faire reconnaître comme sujet d'Hachem, qu'en fait, c'était de ça qu'il s'agissait, même si en fait, on amène des objets, on amène du matériau, un matériau, mais en fait, ce qui est important, c'est de s'amener soi-même, en quelque sorte, si on veut parler comme ça. Donc c'est soi-même qu'on doit mettre dans le domaine public, venant de chez soi, c'est-à-dire après s'être construit chez soi. Après s'être construit chez soi par l'étude de la Torah, ça ne suffit pas de rester chez soi. Il faut que cette Torah rayonne, et son mode de rayonnement, c'est de la mettre dans le domaine public pour qu'elle se confronte justement aux situations qui existent dans le domaine public, et on va voir, et pour qu'elle modifie les situations existantes dans le domaine public dans un sens bien précis, dans le sens de la reconnaissance de la grandeur d'Hachem. Tous les grands dans le clan Israël ont fait ce travail. Abraham est sorti, si quelqu'un est sorti, il est vraiment sorti à la rencontre, il est allé chercher les gens. De Moshe Rabbeinu, on dit, il siégeait justement dans le Rechout Arabim, il siégeait dans le domaine public. D'où est-ce qu'on sait qu'on amenait les matériaux dans un domaine public? C'est parce qu'on les amenait là où Moshe siégeait, et parce qu'il siégeait et que tout le peuple juif venait le consulter, alors le domaine était devenu un domaine public, le domaine où il siégeait. Sinon, il n'aurait pas eu cette dimension de domaine public. Et puis on a plus grand que Moshe, si on peut parler comme ça, on a Shmuel Hanavi, le prophète Shmuel, qui lui sillonne littéralement le domaine public. Il va chez tout le monde, mais donc il utilise toutes les voies qui mènent, qui lient entre eux les Bnei Israël. Il sillonne ce domaine public, ce Rechout Arabim. Il y a bien sûr le travail inverse, qui s'appelle Hachnasa, qui consiste à faire passer quelque chose du domaine public dans le domaine privé, faire entrer chez soi. Alors, de la même manière que on l'a décrit dans l'autre sens, il faut le décrire ici, c'est une façon de se réfugier, de se ressourcer chez soi. Seulement, ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai que c'est une melacha, c'est aussi considéré comme un travail. On a les mêmes exigences de... Pour que ce soit un travail, la chose doit être faite de façon artisanale. Ça s'appelle Melechet Marchevet, un travail pensé, avec toutes les règles dans le geste. C'est un travail aussi d'un homme libre. Mais c'est ce qu'on appelle une tolda. Je vais expliquer ensuite ce rapport, mais en gros, je dis, c'est une melacha, mais de deuxième catégorie, si on peut parler comme ça. Alors il faudra qu'on comprenne pourquoi en fait on n'a pas de symétrie, pourquoi elles n'ont pas toutes les deux la même gravité. On aille dans un sens ou dans l'autre. Alors il faut savoir que on a une tradition qui dit qu'il y a 39 travaux, on y reviendra. Mais maintenant, que sont ces travaux? Ça, ce sont les Chachamim, ce sont nos maîtres qui ont décidé quels étaient ces travaux et quel a été le critère. Le critère, c'est on a cherché à trouver, vérifier, disons, et on a choisi que les travaux qui satisfaisaient cette condition, à savoir, est-ce que ce travail était utilisé dans la construction, pas dans le fonctionnement, dans la construction du Mishkan, donc du temple en kit qu'on montait ou qu'on démontait. Donc systématiquement, on se pose la question, est-ce que ça existait dans le Mishkan? Alors, cette hachnasa, c'est-à-dire entrer quelque chose du domaine public vers le domaine privé, existait dans le Mishkan, mais sous la forme suivante. Je vous ai dit, ce Mishkan, ce tabernacle, en fait, c'était un temple en kit, donc on le montait, on le démontait selon... Chaque fois qu'on arrivait, on campait, on montait. Et quand on devait se déplacer, on le démontait. On mettait sur des chariots, ou on portait à où on portait sur les épaules, certaines choses. Et donc, quand on démontait le Mishkan, les grandes poutres, on les mettait sur des chariots, et ces chariots ont le statut d'un domaine privé. Il y a des règles qui font que un chariot qui était haut sur pattes, si vous voulez, enfin à peu près aussi haut que ça depuis le sol, et qui était, bon, comme tout chariot qui se respecte, assez grand, il n'a pas besoin d'être très grand du tout, c'était un domaine privé, et le lieu où on avait monté le Mishkan était un domaine public, donc c'était, on passait les poutres du domaine public sur le chariot dans le domaine privé. C'est-à-dire, ça existait dans le démontage du Mishkan. C'est intéressant, une melacha qui sert, qu'on trouve dans le Mishkan, mais pas du tout dans le montage du Mishkan, mais dans le démontage du Mishkan. Or, ce démontage était évidemment nécessaire pour se déplacer, c'est-à-dire pour construire ailleurs. Et là, on vient dire ici, en quelque sorte, que lorsque on va vers le domaine privé, on transporte en direction du domaine privé, alors il faut le voir comme la nécessité, on pourrait dire, d'un ressourcement pour faire face à une nouvelle situation. Construire ailleurs, c'est une nouvelle situation, et ça nécessite un ressourcement. Qui est le plus intéressant dans la Gemara, c'est quand on compose les mouvements. C'est-à-dire, lorsqu'on passe du domaine public au domaine privé, et du domaine privé au domaine public. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Si on passe du domaine public au domaine privé, et ensuite du domaine privé au domaine public, on est dans ce mouvement de contraction, expansion, contraction. En fait, on sait bien que c'est le mouvement par excellence du monde. C'est celui qui fait avancer. C'est le principe des moteurs à explosion, c'est un réacteur d'avion, etc. Mais c'est aussi un mouvement dans l'histoire de l'humanité. Dans l'histoire de l'humanité, on passe de Adam à une humanité multiple, par expansion. Ensuite, il y a convergence, c'est-à-dire contraction, c'est-à-dire unification de l'humanité pour construire ce qui va devenir la tour de Babel, et ensuite dispersion, c'est-à-dire de nouveau expansion qui est nécessaire pour mieux fabriquer une humanité qui est vraiment une, qui à ce moment-là sera capable de recevoir le Mashiach, c'est-à-dire qui réussira en fait. Et à l'intérieur du peuple juif, on a aussi cette opération-là. Seulement, elle se fait plus lentement, si vous voulez. On passe d'Abraham, 1, à Yitzhak, qui est toujours 1, à Yaakov, qui est toujours 1, mais ensuite, on passe de 1 à 12, expansion, de 12 à 70, 70 qui descendent en Égypte, de 70 à 600 000. Donc, voilà l'expansion, c'est-à-dire que l'exil égyptien apparaît comme le mouvement d'expansion, et ensuite, convergence, devenir un peuple, ça se fait au pied du Sinaï pour recevoir la Torah, donc contraction pour recevoir la Torah. Ensuite, à cause du veau d'or, il y a de nouveau expansion parce que il y a séparation entre les hommes qui veulent donner leur or, les femmes qui veulent pas le donner, entre les Bnei Israël et la tribu de Lévi qui n'ont pas les mêmes. Donc cette séparation donne justement de nouveau une expansion. Il y a reconvergence pour entrer en Israël, où on fait 12 en un, c'est-à-dire 12 tribus en un territoire. Puis ensuite, comme vous savez, schisme, exil, et on attend la convergence ultime, celle du Mashiach. Donc, si vous voulez, ces mouvements-là, c'est le mouvement standard, le mouvement par excellence dans le monde, et c'est justement ce passage du Roshut Arabim au Roshut Ayachid, puis du Roshut Ayachid au Roshut Arabim, c'est-à-dire cette nécessité de faire des allers-retours, des moments d'expansion, des moments où il faut faire rayonner la Torah, si vous voulez, et des moments où il faut se ressourcer pour faire face à une nouvelle situation, c'est-à-dire pour être à même d'appréhender une nouvelle situation, d'être capable d'aider à transformer cette situation. Dans l'étude de la Torah, c'est la même chose. On étudie en groupe de deux, et puis il y a une expansion au temps de Rabbi Akiva, par exemple, 24 000 élèves, et puis chacun est pour soi. Au lieu de converger vers l'unité, il se sépare et il meurt. C'est-à-dire cette expansion-là a débouché sur la mort. Il a fallu que Rabbi Akiva recommence. Il a tout recommencé avec 5, certains disent 7 élèves. L'expansion qui est la Hotsaa, qui va vers le domaine public, c'est ça le Shaliach d'Hachem. Mais de temps en temps, on a besoin de prendre avec soi ce monde extérieur, c'est-à-dire d'en prendre un modèle, si possible adéquat, pour l'analyser à l'intérieur, à l'abri des pressions extérieures, pour ensuite savoir comment ensemencer le monde extérieur avec les valeurs de la Torah. Le Gaon de Vilna explique que pour savoir justement comment ensemencer, eh bien, on est obligé de connaître le monde. Bon, la connaissance du monde, elle se fait en connaissant un certain modèle du monde. On a toujours une certaine vue du monde qui nous aide à en prendre une mesure, sinon la mesure. On peut peut-être dire d'ailleurs que la caractéristique de Yaakov, qui est celui qui étudie, curieusement, il est dit de Yaakov qu'il est Yoshev Ohalim, qu'il résidait dans des tentes, au pluriel. On peut penser que ces tentes, qui sont des domaines privés, c'est cette idée qu'il faut traiter les problèmes dans toutes sortes de tentes successives, c'est-à-dire de lieux d'études successifs, si vous préférez, qui sont déterminés par les situations qu'on veut prendre en compte et sur lesquelles on veut travailler. C'est-à-dire comment se donner les moyens de transformer les situations du monde. Il faut étudier, mais on n'étudie pas de la même manière dans toutes les situations. Donc il faut, on va dire, des Bate Midrashot, des lieux d'études différents en fonction des situations qu'on essaye de maîtriser. Je pourrais essayer peut-être de répondre à la question de Gabriel, qui n'est pas là d'ailleurs, mais il avait demandé, je crois, si j'ai bien compris, pourquoi est-ce que on avait laissé aux autres peuples toute la charge de s'occuper du monde et on s'était concentré sur l'étude. Est-ce que c'est la question qu'il avait posée? Alors, la réponse, je vais la donner en deux temps. La question est bonne et nos maîtres se sont posés cette question et dans le Midrash, ils sont tombés à bras raccourcis, il n'y a pas de sens X, à bras raccourcis sur Yaakov Avinu, en disant que c'est absolument incompréhensible qu'il ait donné tant de pouvoir à son frère Esav, qu'il lui ait tout abandonné, il s'est prosterné, cette fois il lui a donné Adoni, Adoni, mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur. Les Rabbanim, les Chachamim dans le Midrash, ils s'arrachent les cheveux. Comment est-ce que Yaakov a pu faire une chose pareille? Donc effectivement, il y a lieu de se poser la question. C'est une première chose. Je vais expliquer un peu plus bas comment on pourrait comprendre la démarche de Yaakov. Mais je voudrais ajouter la chose suivante. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on aurait dû prendre à bras-le-corps les problèmes du monde, au moins partiellement, et pas les abandonner aux autres. Et nous réfugier, nous concentrer uniquement dans l'étude. Les voies par lesquelles on ensemence le monde, ne sont pas obligatoirement des voies logiques et des voies qui sont faciles à décrire et surtout pas faciles à prévoir. Je voudrais juste faire rapporter une remarque que j'ai entendue au nom de Raymond Aron sur le communisme, sur Mao en d'autres termes. Il disait qu'en fait, le communisme était une ruse de l'histoire pour amener en Chine, en Asie, les valeurs occidentales. Lui, il disait les valeurs occidentales. On peut dire que certaines valeurs, qui sont des valeurs de la Torah, déformées par, et qui sont, par leur devenir valeurs occidentales, c'est-à-dire déformées dans le catholicisme, éventuellement dans l'islam, bon, ces valeurs sont arrivées en Asie, ou a priori, telles quelles, dans leur originalité, valeur de Torah, elles n'avaient aucune chance d'arriver. Et là, lui, il appelait ça une ruse de l'histoire. On peut se dire que nous ne savons pas quelles sont les ruses de l'histoire. On ne sait pas par quel biais, effectivement, on ensemence le monde pour qu'il change. Donc, il y a ce point-là. C'est-à-dire que ce n'est pas si évident que cela. Mais je vous dis, les Chachamim ont pensé que Yaakov s'était trompé. Ils ne lui font pas dire. Je veux dire, ils sont très, très, très sévères à son égard. Et ils disent clairement qu'il n'aurait jamais dû faire une chose pareille. On va voir par la suite comment on pourrait entendre peut-être cette démarche de Yaakov. Donc jusqu'à présent, on a parlé de la malacha. On a introduit une autre notion de travail qui est la avoda. Dans la avoda, les gestes ne sont pas nécessairement artisanaux. Ils peuvent l'être. Lorsqu'ils le sont, c'est un progrès par rapport à des gestes qui sont répétés ou répétitifs, machinaux. Mais même lorsqu'ils sont des gestes, on va dire artisanaux, même lorsqu'ils sont faits par des artistes même, dans la mesure où ils sont encore au service d'eux, parce que Avoda, c'est en famille avec Eved. Eved, c'est l'esclave, le serviteur, c'est serviteur d'eux. Et donc, dans la mesure où ces gestes sont au service de quelqu'un d'autre, en fait, eh bien, ils ne sont pas, ça n'est pas le travail qui épanouit l'homme. Ce n'est pas un travail qui épanouit dans la mesure où il n'est pas libre. Celui qui agit, il fait peut-être un geste libre. Si, par exemple, il faisait le geste, un geste artisanal, il fait un geste libre, mais il n'est pas libre. Et la condition, disons, pour que la mlacha, pour que le travail soit un travail digne de son nom, c'est-à-dire qui joue son rôle de dévoilement de la grandeur d'Hachem, c'est que l'homme soit libre et que le geste soit libre. Que le geste soit un geste artisanal ou artiste et que l'homme soit parfaitement libre. Alors, il y avait dans le Mikdash, il y avait une avoda. La avoda, elle était là, elle correspondait plutôt au fonctionnement du temple. Pas à la construction, mais au fonctionnement. Et dans ce fonctionnement-là, on n'a quasiment aucune latitude. Aucune latitude. Donc on est vraiment esclave, en fait. Complètement au service d'eux. Mais qu'est-ce qui donne à cette avoda sa dimension acceptable de fonctionnement du fonctionnement Beit HaMikdash et qui n'est pas une avoda aliénante? C'est là le pour. Je vous ai dit, dans la avoda, il y a le fait que même si le geste est un geste libre, et dans la mesure où il est pour quelqu'un, sur ce plan, il est imparfait. Dans le Mikdash, il n'y a pas de pour quelqu'un. Dans le Mikdash, ce geste, c'est un pour celui qui n'a aucun besoin, celui auquel on n'apporte rien. Comme on dit dans la Tfila de la Neila, Vim Yitzdak Maitenlach, Et même si l'homme est un, se conduit comme un juste, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il donne à Hachem? Le Eved, donc Avoda, Eved, l'esclave, le serviteur d'Hachem ou de l'homme, l'accent est mis sur le fait d'être au service d'eux. Et Hachem se présente, au peuple, au moment de Aseret HaDibrot, au Sinaï, il se présente comme celui qui a fait sortir les Bnei Israël de l'esclavage, c'est-à-dire de l'état de au service des hommes. Sortir de cette condition où on est au service des hommes, c'est nécessaire pour servir vraiment Hachem. Hachem ne partage pas le pouvoir en quelque sorte. Au moment de, on vient de le voir, au moment de l'histoire d'Esther et de Mordechai, quand les Juifs ont échappé à... Lorsqu'ils ont échappé à la solution finale que Haman avait mise sur pied. Alors la Gemara se demande pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Hallel. Normalement, on devrait chanter le Hallel, c'est l'expression de la joie. Comment se fait-il qu'on ne le dise pas? Une des réponses que donne la Gemara, c'est de dire les premiers mots du Hallel, c'est Hallelu Avde Hashem. Loué Hashem, serviteur d'Hashem. Avdim, Avde Hashem, forme construite donc, Avadim Shel Hashem. Il dit, et nous, on n'est pas Avadim Shel Hashem, on est Akate Avde Achashverosh Hanan. Nous sommes encore des Avadim d'Achashverosh d'Assyrus. C'est vrai, quand les Bnei Israël ont échappé à la solution finale, ils n'en sont pas moins restés sujets d'Achashverosh. Et donc, d'une certaine manière, ils ne pouvaient pas instaurer, ils disaient le Hallel qui avait déjà été instauré, mais on ne pouvait pas instaurer qu'on allait dire le Hallel parce qu'on n'était pas Avde Hashem. On n'est pas Avde Hashem quand on n'est pas libre. On ne peut pas servir Hashem si on a un autre maître. Et donc, quand Hashem se présente en disant « Je vous ai sorti de la dépendance des hommes, donc je vous ai mis en position de pouvoir être Avde Hashem. » Ici, être Eved Hashem, ici on l'utilisera uniquement pour dire que ça veut dire ne pas être Eved d'un homme, c'est-à-dire être libre. Il y a beaucoup plus, évidemment, dans le fait d'être Eved Hashem, d'être serviteur d'Hashem, mais ce qui m'intéresse pour les besoins de l'exposer, c'est de dire, c'est la première condition, être Eved Hashem, c'est d'abord n'être Eved de personne d'autre. La avoda est donc un travail aliénant, sauf lorsqu'elle est faite pour Hachem, puisqu'à ce moment-là, ultimement, elle est faite pour moi. Faire pour Hachem, c'est en fait faire vraiment pour moi. C'est élargir ma liberté, en fait. La avoda, elle doit faire droit à la liberté, en fait. L'esclave, lui, ne sait même pas ce que veut le maître. On verra que la liberté, le summum de la liberté, c'est au Sinaï, c'est ce qui est gravé sur les tables de la loi. Et là, on aura un lien entre la avoda et la melacha. On aura un lien entre le service d'Hachem et la melacha, c'est-à-dire qu'en fait, la sortie de la mauvaise avoda, c'est-à-dire la avoda qui fait de nous, qui aliène notre liberté, elle a eu lieu à Pessah, et la dimension de reconnaissance de soi-même, c'est-à-dire que nous sommes serviteurs d'Hachem, ce qui est en fait notre reconnaissance, reconnaissance de soi-même, cette melacha, hein, correspond au travail de melacha, ça a lieu au moment de Matan Torah. Je veux maintenant essayer de prendre les deux melachot dont on a déjà parlé, celle qui consiste, ce qu'on appelle hotza'a, de regarder un peu plus près, celle qui consiste à passer d'un domaine privé au domaine public. Passer du domaine privé au domaine public, c'est un peu ce qui ressortait de ce qui a été dit jusqu'à présent, c'est donc s'interroger et appliquer la loi, dans le domaine public, c'est-à-dire faire un travail, transporter du Kodesh dans le monde profane, c'est-à-dire ajouter au monde profane de la valeur, de la structure, grâce à mon travail, enrichir le monde profane. Le travail n'est donc pas une vraie valeur ici. C'est le support d'une valeur. Une valeur qui a besoin de ce support pour exister dans le monde concret. La mitzvah, elle existe déjà sous forme de parole divine, dans un monde spirituel, intellectuel, dans la pensée. Elle doit néanmoins aussi se réaliser dans un monde concret. Il ne s'agit pas de penser à la liberté le soir du Seder pour avoir fait les mitzvot de Pessah. On peut penser toute la soirée à la liberté, mais si on n'a pas mangé la matzah, si on n'a pas bu les quatre coupes, etc., on n'a pas fait les mitzvot de Pessah. Alors l'amlacha, elle doit faire droit à la reconnaissance de soi comme responsable, comme capable de faire ce qu'il a à faire, parce que Hachem lui en a donné à la fois la tâche et donc les moyens. Hachem ne nous donne pas de tâche sans nous donner les moyens d'accomplir cette tâche. La Hotsaha, d'après ça, c'est un travail qui met des mots, des divrei Torah, qui vont structurer le domaine public. Elle met des mots dans le domaine public qui vont le structurer. Les gestes de ce travail doivent être, comme je vous ai dit, des gestes artisanaux. L'homme et le geste doivent être parfaitement libres. Et c'est d'ailleurs uniquement cela que la Torah interdit vraiment le Shabbat. C'est le travail avodah, même lorsqu'il est nécessaire, par exemple lorsqu'il est alimentaire, mais dans lequel l'homme ne se déploie pas vraiment, n'est pas vraiment interdit au sens, c'est pas vraiment l'interdiction. Si maintenant on regarde la harnassa, l'opération inverse, faire entrer dans le domaine privé des choses à partir du domaine public, c'est-à-dire prendre du profane et le faire entrer dans le Kodesh. Ça se fait de deux manières. Ou bien la parole qui sanctifie, c'est-à-dire c'est comme ça que lorsque vous voulez donner un corban, ce qu'on appelle un sacrifice, vous allez dans votre étable et vous prenez un animal et vous dites, cet animal-là, je lui donne la kedusha, la sainteté nécessaire pour jouer son rôle, c'est-à-dire de hola, de shlamim, enfin les différentes sortes de korban qu'on peut approcher. Ça se fait par la parole. La vérité, c'est qu'il y a une exception. Elle est très importante parce que elle va nous être utile ici. C'est que l'autre exception, enfin l'exception, pardon, c'est que il existe une situation dans laquelle un animal va être approché comme corban, bien que je n'ai rien dit concernant cet animal. C'est ce qu'on appelle le bechor. C'est l'animal qui est né, qui est premier-né. Lui, sa kdusha, elle vient du fait qu'il a inventé une voie. Il est le premier à avoir passé par les voies basses. Bon, ce ne serait pas le cas dans une césarienne, etc. Il est le premier à avoir inventé ce passage dans c'est un premier agneau qui a passé par les voies basses de cette brebis. Donc, on voit qu'il y a deux possibilités. Ou la parole, ou l'invention d'une nouvelle voie. L'invention d'un chemin. Ça, c'est possible. Ça, c'est une possibilité de mettre de la kdusha, c'est-à-dire de faire entrer du profane dans le domaine du Kodesh. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, a priori, lorsque, premièrement, la caractéristique de l'homme, à savoir la parole, sert donc à cela. Elle sert à créer, je dirais, à créer un monde dans le domaine du Kodesh. Le domaine du Kodesh, c'est un domaine relativement abstrait. Il faut lui mettre du concret, il faut l'habiter, apporter des supports physiques. c'est intéressant parce que c'est la caractéristique de l'homme. Elle sert à faire un travail qui n'est pas le travail le plus élevé. C'est jamais que la harnassa, et la harnassa est ce qu'on appelle une tolda, c'est-à-dire une melacha, c'est vrai, mais une melacha second, enfin, de deuxième ordre, de la deuxième niveau. Pas la, ce n'est pas la, le travail le plus élevé, c'est le travail secondaire. C'est curieux, et c'est également curieux que ce soit... Parce que mon cher Rabbeinu n'a pas parlé au rocher, vous savez bien, il aurait dû parler au rocher pour que le rocher donne son eau, et il s'est énervé, il a frappé le rocher a donné l'eau, mais parce que Moshe l'a frappé, c'est-à-dire que Moshe a régressé en quelque sorte, il est revenu à l'état, enfin, aux situations dans lesquelles il agissait avec son bâton, au lieu d'agir avec sa parole, et Hachem lui fait à lui et à Aaron des reproches, et lui dit que c'est cette faute-là qui le disqualifie pour guider les Bnei Israël en Égypte, en Eretz Israël. Il n'entrera pas en Eretz Israël, il ne dirigera pas les Bnei Israël en Eretz Israël. Il s'est disqualifié en faisant cela. Il s'est aussi disqualifié en ne transformant pas en quelque sorte ce rocher, qui est le matériau, il est là, il aurait dû lui donner de la Kdoucha en quelque sorte. Il aurait dû avoir un Kiddush Hashem par sa parole, sanctification du nom divin, par la parole. Mais, c'est-à-dire faire entrer du Chol dans le Kodesh de nous. Donc il s'est disqualifié parce qu'il n'a pas agi à ce niveau-là. Et c'était aussi seulement une tolda, ce n'est pas un Av. C'est intéressant de voir que ce travail-là n'est pas le plus haut travail qui soit, et néanmoins, c'est celui qu'on fait avec ce qui caractérise l'homme, et c'est celui qui a disqualifié Moshe Rabbeinu. En fait, cette parole, ou ces paroles-là, elles sont la source des 39 travaux. Donc, y compris du travail Otsaha. La source, c'est les paroles, parce que d'où est-ce qu'on sait qu'il y en a 39 de travaux? C'est une dracha sur le verset Ele Advarim. Voici les paroles. Voici les paroles. Et de ces paroles, Ele, ça fait en Gematria, ça fait 36, et Advarim, ça fait 3. Et donc, ça fait 36 plus 3, jusque-là, ça va. Ça fait 39. Donc, c'est les 39 travaux en question. Alors c'est très, très acrobatique, et surtout c'est basé sur la notion de parole, et la parole c'est ce qui sert à faire entrer du Chol dans le Kodesh. Alors bien entendu c'est aussi les paroles de Kodesh, mais en termes de travail, c'est pas le travail au niveau le plus élevé, curieusement. Bon, ces melachot, elles sont structurées. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle les avot, les principes fondamentaux, et puis il y a les toldot, qui sont des travaux analogues, mais qui sont justement du deuxième niveau. Ces toldot, c'est un peu le back-office, si vous voulez. Pourquoi est-ce qu'il y a cette structure? Alors, peut-être qu'on trouve ici une réponse à la question que j'avais rapportée ici de Gabriel Vanay. La Gemara dit... Pourquoi il y a cette structure? C'est pour nous enseigner que si quelqu'un transgresse en faisant le travail, un des 39 travaux, et un travail analogue qui entre dans la catégorie des seconds qui sont, mais qui est de la même famille, s'il a fait ces deux fautes-là dans le même oubli du fait que c'était Shabbat. Il a oublié que c'était Shabbat et il a fait ces deux travaux-là, il n'apporte qu'un seul sacrifice. Et on pourrait se dire que la question qui se pose, est-ce qu'on dit ça? Parce qu'il y a une opinion qui dit autrement, qui dit que là on apportera malgré tout deux sacrifices. On peut dire, avec ce qu'on a dit jusqu'à présent, qu'on peut se demander, est-ce que le ressourcement, c'est-à-dire est-ce que de prendre le modèle du monde et d'aller le travailler par la Torah chez soi. Est-ce que c'est une démarche qui a une valeur en soi? Ou est-ce que ce n'est qu'une préparation suffisamment importante pour être une melacha, mais ce n'est qu'une préparation pour la... En d'autres termes, est-ce que cette contraction, ce qu'on a vu comme contraction, est-ce que ça a une valeur en soi? Ou est-ce que ça n'a de valeur que dans la mesure où ensuite il y aura une expansion? Qu'ensuite on va appliquer ça à l'analyse du monde. On aura analysé le modèle et on va concrètement aller sur le terrain et ensemencer le monde avec ce qu'on a réfléchi. Et on peut dire que Yaakov pensait que c'est une démarche pour soi. Ça a une valeur en soi. Peu importe ce qu'on en fera après. C'est déjà en soi. Et donc peut-être que Yaakov pensait qu'effectivement les problèmes du monde, on n'avait pas à les prendre à bras le corps. Les problèmes du monde, il faut les faire entrer dans le Beit HaMidrash. Il faut les traiter. Il faut mettre les mots de Torah sur ces problèmes-là. Et c'est tout. Il n'est pas nécessaire de s'occuper ensuite, on pourrait dire, ensuite on compte sur la ruse de l'histoire pour faire transpirer cette connaissance, transpirer ces résultats auxquels on est arrivé, pour que le monde soit ensemencé. Mais je ne suis pas obligé d'aller moi-même sur le terrain, dira Yaakov, de me salir les mains pour le faire moi-même. J'ai élaboré tout ce dont on a besoin, et si quelqu'un veut, je lui donnerai les résultats, je lui dirai ce qu'il faut faire, et sinon ben, j'attendrai qu'éventuellement ça transpire, comme on a dit, que ça circule, que ça aille de soi par une ruse ou l'autre de l'histoire, par exemple. Et puis les Chachamim disent, non, on n'est pas d'accord. Les Chachamim disent, il faut aller sur le terrain et il faut appliquer le modèle sur le terrain. C'est à nous à appliquer le modèle. Et ils disent, eh bien, Yaakov s'est trompé. Yaakov s'est trompé, c'est un grand malheur d'avoir laissé tant de latitude à Esav. Ce processus qui passe par la parole, faire passer le matériau du Chol au Kodesh, on pourrait s'attendre à ce que ce soit lui, comme je vous dis, l'essentiel dans la construction du Mishkan, mais il n'en est rien. Il n'est qu'une tolda. Le Hav, c'est le geste d'apporter le matériau sur le chantier depuis sa maison. C'est ça la Hotsaha. C'est une espèce de prééminence du travail, de l'action sur une parole même performative. Maintenant, peut-être que ce qu'on a dit, cette volonté de donner, cette générosité, idveno libo, peut-être qu'elle s'accompagne aussi d'une parole. Peut-être que quand il apporte sur le chantier, il parle en même temps. Peut-être qu'on avait d'un côté le geste plus la parole, et puis de l'autre côté, uniquement la parole. Peut-être que justement, ce qu'il fallait, c'est le geste plus la parole, c'est-à-dire en fait être ce que l'on dit, c'est-à-dire être à la hauteur de ce qu'on dit, faire ce qu'on dit en réalité. Il y a un troisième point sur lequel on a parlé la semaine dernière, Trancard a parlé la semaine dernière, c'est ce qu'il a appelé la Asiya, l'action, par rapport au travail de Hannah Arendt. Alors d'abord, je remarquais que la Asiya n'est pas homogène aux deux autres. Bon, Asiya, ce n'est pas un terme homogène aux deux autres. Il n'y a pas Melacha et Avoda. Asiya, c'est un peu autre chose. Alors c'est vrai que les versets de la construction du Mishkan, qui est le travail par excellence, sont bourrés de Ve'asita, Ve'asita, Ve'yas, tout le verbe, tout le temps, toutes les déclinaisons du verbe faire, de la Asiya. Et les six jours de la création se terminent par le mot la Asot. C'est-à-dire, c'est ce qui est à faire. Ce qui reste à faire après la création, en quelque sorte, par Hachem. On doit pour dire, bon, c'est ce que l'homme doit faire. Hachem dit, bon voilà, moi j'ai fait ce que je devais faire, maintenant j'entre dans mon Shabbat, dont on n'a pas d'information qu'il en soit jamais sorti, et maintenant nous, les hommes, c'est la Hassot, à vous de jouer, à vous de faire. Le problème c'est que Hachem est appelé, il est osé, lui aussi il fait. Bon, on dit, cité Baruch Hu, mais on veut osé, etc. Il fait. Et alors, si Hachem fait, alors qu'est-ce qui reste à l'homme? Si même maintenant Hachem est osé, lui aussi il fait, il agit, alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous? Alors il reste à se préparer, en fait. À se préparer comme on devait se préparer pour recevoir la Torah. Mais peut-être ne pas en rester à une préparation passive, mais faire comme ce troisième jour de préparation que Moshe a ajouté. Hachem avait dit il faut deux jours de préparation, et Moshe a dit moi j'ajoute un jour, de façon absolument incroyable. Il a dit à Hachem, tu nous donnes la Torah demain, non ça ne nous convient pas, on sera prêt après-demain seulement. Donc tu reprends tes tables et de la loi et tu nous les redonneras le jour d'après. Et alors, on avait dit, toute cette démarche est un peu surprenante, dans la mesure où, si Hachem a dit qu'on est prêt après deux jours, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'on se prépare un troisième jour? Qu'est-ce qu'on a fait? Il n'y avait rien à faire, on était déjà prêt. Alors qu'est-ce que Moshe a voulu faire? J'avais expliqué au shiur que, en fait, Moshe Rabbeinu a voulu que les Bnei Israël soient un peu actifs. Il a voulu qu'on fasse quelque chose. On n'a pas besoin de le faire, mais dans le monde, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin de faire et qu'on est appelé à faire. Ce n'est pas qu'Hachem a besoin que nous fassions les choses, sinon elles ne seraient pas faites. Bon. On nous laisse faire des choses parce que c'est bien pour nous de les faire. Et on voit que le modèle de Moshe Rabbeinu d'ajouter un jour, il a été repris par Esther qui, elle, a inventé trois jours. Trois jours de préparation. J'avais expliqué dans les Shurim sur Purim que Esther a, après le Khatam Sofer, ces trois jours, c'est une préparation pour la réception de la Torah qui a eu lieu à Purim. Une invention d'Esther. Elle a pris modèle à la fois sur Hachem plus Moshe Rabbeinu. Deux jours d'Hachem, un jour de Moshe, elle dit, moi je dis trois jours. Donc, elle prend les choses complètement en main, c'est-à-dire que Esther à ce moment-là, elle fait à la fois ce qu'Hachem a fait et à la fois ce que Moshe Rabbeinu a fait. Donc c'est, si vous voulez, un glissement où les hommes, en l'occurrence la femme, où les hommes font à la place d'Hachem. Pas seulement à la place, pas seulement en copie, en étant, mais ils prennent la place d'Hachem dans la préparation. Mais ensuite, dans l'action également. Esther, elle prie, elle dit, en quelque sorte à Hachem, je sais bien que je dois faire quelque chose, je sais bien que je dois intercéder. Mais évidemment, je ne peux pas y arriver toute seule. Si tu ne m'inspires pas, je n'y arriverai pas. Donc elle donne quasiment l'ordre à Hachem de l'inspirer. Le verset dit, « Va-t-il-bash Esther Malchut » que Esther s'est revêtue de Ruach HaKodesh, d'inspiration, comme si on pouvait décider d'avoir l'inspiration. C'est comme si Esther avait été sur la table et dit, « Maintenant, donne-moi l'inspiration. » L'inspiration, c'est quelque chose, tu l'as ou tu l'as pas, mais non, elle dit, j'ai besoin de cette inspiration, il faut que tu me la donnes. Et c'est presque, on entend presque un, bon c'est suppliant, mais c'est presque, j'exige, pour le peuple, j'exige cette inspiration, sinon je ne peux pas y arriver. Tu m'as donné une tâche que je ne peux pas faire si tu ne m'inspires pas. Et elle a été inspirée. Et c'est le modèle qui nous reste pour le Galout, pour tous les exils. La Asiya, l'action en quelque sorte, c'est un travail aussi, un travail qui est ouvert, qui est non fini, disons en tout cas. C'est un travail, c'est pas, tout ce qui a contribué à construire le Mishkan, c'est en fait fabriquer des choses dont on ne connaît absolument pas la portée des choses, de ces choses-là. C'est par opposition à un travail qui serait un travail de ce que Moshe disait, de production, mais qui est la finitude, la mort en fait. Ici, c'est un travail qu'on fait sans qu'on ait absolument aucune idée de l'ampleur de ce qui va venir, en fait, de ce qu'on va pouvoir faire dans ce Mishkan. Ils ont fait des choses, l'artisanat, et puis tout à coup, cet artisanat va avoir un impact, il va transformer le monde, il va gouverner le monde en fonction de ce que les Bnei Israël vont faire, que ce soit dans le Mishkan, puis dans le Beit HaMikdash. Le monde fonctionnera ou fonctionnera bien ou mal. Et d'ailleurs, et eux-mêmes vont devoir se mettre en phase avec ce qu'ils vont faire dans ce Mishkan, puis dans ce Beit HaMikdash. En fait, c'est vrai non seulement de ce qui se passe dans le Mishkan, mais c'est vrai de toutes les mitzvot. Toutes les mitzvot sont des gestes, des travaux qui nous dépassent, où nous pouvons faire plus que ce que nous pouvons. C'est-à-dire, moi j'appelle ça agir divinement. Bon, puisqu'on agit sur l'ordre d'Hachem, donc on agit divinement. C'est-à-dire, et il faut l'entendre comme ça, hein, presque à la lettre, parce que c'est bien ce qu'Esther a fait. Elle a agi divinement dans la mesure où elle s'est substituée à Hachem. C'est-à-dire, il faut une préparation, mais il faut le faire venant de nous-mêmes. C'est nous qui prenons l'initiative. Cette initiative, c'est fabriquer du futur. Mais le vrai futur. Un futur dont on n'a aucune idée. On va atteindre un but, mais le Mashiach, il n'y a pas de voie qui mène au Mashiach. Il n'y a pas de chemin. C'est pas que si on fait ça, ça et ça, on arrive au Mashiach. On doit pratiquer la Torah, étudier la Torah, pratiquer la Torah. Et puis il viendra quand il viendra. Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de chemin qui mène. C'est une action sans savoir où ça va. Pour revenir au dernier point, enfin, que je voudrais peut-être traiter encore ce soir, c'est le problème du social. Alors, qu'est-ce que c'est le social? Alors, puisque on a commencé sur le modèle des lois du Shabbat, il y a encore un autre domaine. Il y a le domaine privé, il y a le domaine public, et puis il y a ce qui s'appelle dans la Gemara, ça s'appelle Makom Ptur, c'est-à-dire c'est un non-lieu de ce point de vue-là. C'est un lieu où on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. On peut porter, on peut ne pas porter. On peut à partir de ce lieu-là entrer dans un domaine privé. On peut à partir de cet endroit-là, on peut entrer dans un domaine public. C'est complètement ouvert. Alors, ici, il y a quelque chose d'intéressant, c'est dans la Torah, il n'y a pas que des mitzvot à faire. Il y a des mitzvot, c'est-à-dire Hachem nous dit ce qu'il faut faire. Puis il y a des situations où on peut faire comme on veut, comme je vous dis. Mais dans ces situations, il y a un passouk dans Michelet, Shlomo HaMelech qui dit « Bechol drachecha da'eu » Dans toutes tes voies, connais Hachem. C'est-à-dire, en fait, justement, dans ces situations-là, où rien n'est prescrit, fais un travail pour agir en permanence, ça s'appelle l'Ishma, pour Hachem. Agir en permanence pour Hachem, c'est-à-dire, sans arrêt, se demander, est-ce que ce que je fais contribue à la construction du monde, d'un monde dans lequel on va pouvoir faire des mitzvot, un monde dans lequel on va pouvoir faire apparaître la grandeur d'Hachem. Mais c'est moi qui m'interroge, et c'est à moi à trouver les solutions. Il y a un domaine des mitzvot, puis un domaine dans lequel Hachem n'a rien dit. Il a dit à toi de regarder. Alors, c'est un peu difficile. Et comme toujours, les Chachamim, nos maîtres, ont fait quelque chose pour nous aider. Ils nous ont dit, voilà, dans ce domaine qui s'appelle Makom Tour, on va définir un sous-domaine dans lequel on va artificiellement fixer des règles qui seront des règles qu'on aura prises partie dans celles qui définissent un domaine privé et partie dans celles qui définissent un domaine public. On va inventer de toutes pièces ce domaine qui n'est ni public ni privé, ou si vous voulez, qui est à la fois public et privé, si ça existe. Et donc, mais ils n'ont pas étendu ce domaine-là à tout le Makom Tour. Il reste néanmoins des endroits où on peut faire ce qu'on veut. Seulement, en faisant ça, ils nous ont montré comment est-ce qu'on travaille dans un domaine où on ne nous a rien dit. Qu'est-ce que je fais quand la Torah ne dit rien ? Et ils nous ont montré. Eh bien, il faut fabriquer un modèle à partir de ce qui t'a déjà été prescrit. Tu vas fabriquer quelque chose, tu vas t'inspirer des deux domaines. Et ça, c'est probablement le domaine du social, où effectivement se rencontre, on est dans un domaine qui n'est ni le domaine privé, ni le domaine public, mais où il faut justement faire en sorte que quoi, en fait ? Qu'est-ce qu'on veut dans ce domaine ? C'est pas un domaine où les mitzvot sont prescrites, mais on veut fabriquer un domaine dans lequel on pourra faire des mitzvot, on ne sera pas obligé d'en faire en permanence, et on va appliquer la Torah, on va fabriquer les situations dans lesquelles on va appliquer la Torah. C'est-à-dire on va, disons, définir une vie éthique, si on veut, c'est-à-dire qu'on va établir des relations sociales. Les relations sociales, elles vont se nouer, disons, grâce, on pourrait dire, à l'amour, grâce au droit, et grâce, disons, à la fabrication d'un groupe de gens solidaires. C'est-à-dire, on va fabriquer des gens qui ont décidé de s'entraider, par exemple, qui ont décidé d'accepter une discipline, d'accepter des règles de fonctionnement. Il y avait, par exemple, dans la Torah, il y avait des groupes qui s'appelaient des chaverim. Les gens étaient chaver, c'est-à-dire qu'ils s'engageaient à un certain comportement qui permettait aux autres de leur faire confiance le cas échéant, c'est-à-dire on pouvait entrer chez eux, on pouvait manger chez eux, on pouvait avoir des relations avec eux en toute confiance. Un groupe de gens qui se font confiance. Il y a des règles. Bon, alors tout ça, qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? Qu'est-ce qu'on veut ? Ce qu'on veut, c'est que dans ce groupe, chacun puisse respecter l'autre dans sa particularité individuelle. Et ça, c'est la forme la plus exigeante, probablement, de la reconnaissance mutuelle. Or, cette reconnaissance mutuelle, ce travail de reconnaissance, c'est notre nom, de Yehudim, de reconnaissant. Le groupe de gens qui se reconnaissent, qui reconnaissent à l'autre le rôle qu'il veut qu'il peut jouer, je le reconnais, je valorise ce rôle. Et c'est ça, je crois, qu'il faut faire dans le social. Alors, comment on va le faire ? Eh bien, on va s'inspirer de principes qui existent ailleurs dans la Torah, mais qui ne s'imposent pas dans ces situations-là. Alors, ça sera ni une mitzvah, ni une autre mitzvah, peut-être une synthèse des deux, peut-être une coupe à travers, enfin, des éléments qu'on aura pris, et on aura concocté quelque chose de nouveau. Alors, ils ont fait la même chose dans ce domaine qu'on appelle dans la Torah carmélite, qui est un domaine qui n'est ni un domaine privé ni un domaine public, qui n'est pas non plus le Makom Tour, qui n'est pas un lieu où on peut faire n'importe quoi, mais un lieu dans lequel on a imposé certaines règles qu'on a empruntées à gauche et à droite. Eh bien, c'est ça qu'on est invité à faire, en quelque sorte, dans le social. C'est ça, fabriquer des relations sociales qui vont se nourrir, effectivement, d'expériences. Qu'est-ce que ça veut dire par amour, ben, toutes les relations primaires sur le mode de relation, de rapport, qu'ils soient érotiques, amicaux, familiaux, etc., qui impliquent des liens affectifs puissants entre un nombre restreint de personnes. C'est ça qu'on va fabriquer, en quelque sorte. Et ensuite, il y a le droit, il y a la reconnaissance juridique de l'autre. Et puis, encore une fois, cette appartenance, cette fabrication d'une appartenance à un groupe de gens qui se font confiance, qui construisent des relations de confiance. Voilà. Donc vous pouvez maintenant... J'ai peut-être répondu à certaines des questions qui sont restées en suspens, peut-être pas, sinon il faut les reformuler. Non, pas nommé. Le mot Yehuda, quand Yehuda est né, sa mère, Léa, l'a nommé comme tel. Elle l'a nommé Yehuda. Pourquoi? Parce que elle a dit, Yaakov doit avoir 12 fils, qui sont les ancêtres des 12 tribus. Nous sommes 4 femmes. Donc, la moyenne, ce serait que chacune ait 3 enfants. Et voilà, j'en suis déjà à 4. Donc elle a voulu exprimer sa reconnaissance à Hachem, et elle a nommé son fils d'après cette reconnaissance. Et Yehuda lui-même, il a parfaitement assumé son nom, c'est-à-dire l'autre sens de reconnaissance. Lorsque on a accusé Tamar d'avoir été adultère, et qu'il a dit, Tzadka Miménis, elle a raison, c'est moi qui l'ai mise enceinte, et j'en avais le droit, elle avait le droit de, je ne savais pas que c'était elle, mais ce n'était pas nécessaire de le savoir, elle avait le droit de faire ce qu'elle a fait, et donc il a reconnu, ce qui était probablement assez difficile, parce que ça se passait devant un tribunal, et dans ce tribunal il y avait son grand-père, son père, et donc il devait reconnaître qu'en fait, il avait eu ce rapport avec une femme qui s'était fait passer pour une prostituée, qui était sa brume, mais il n'en savait rien. Donc il fallait reconnaître tout ça. Donc il a été capable d'assumer l'autre volet, en quelque sorte, de son nom. Et donc ça veut dire que notre nom de Yehudim, qui est construit sur Yehuda, d'accord, ça veut dire que notre caractéristique, c'est le problème de la reconnaissance. Sinon on n'est pas à la hauteur de notre propre nom. Dans les deux sens du mot reconnaissance.
Défense de Torah Mishma. Alors, si faire Israël, on ne le faisait pas parce que ça s'était passé en dehors de l'Eretz Israël. Parce que le Hallel complet ne peut être fait, enfin, le Hallel en tant que tel, ne peut être fait que si on est justement à Avodat Hashem en Eretz Israël. Ça, c'est le troisième point que je voudrais vous soumettre. Et.
Alors, je réponds d'abord au troisième. Vous avez raison, dans la Gemara, il y a plusieurs réponses. Je vous ai dit, une des réponses, c'est celle-là. Une autre réponse, c'est ce que vous dites. Et il y a encore une autre réponse qui est que c'est la Megillah qui est le Hallel. Il joue le rôle du Hallel. Donc, si vous voulez, c'est vrai, les trois réponses sont vraies. En ce qui concerne le Lishma, il faut que vous compreniez la chose de la manière suivante. Dans Pirkei Avot, on dit ne servez pas le maître, almenat le kabel pras. C'est-à-dire ne servez pas Hachem pour recevoir un salaire, pour recevoir un prix. Or, vous savez bien que quand Moshe a intercédé pour entrer en Eretz Israël, il a sorti une grande partie de ce qu'il savait dans le domaine de la prière. Hachem lui a demandé d'arrêter de prier. Et il lui a dit, qu'est-ce que tu veux finalement? Tu veux le mérite des mitzvot que tu pourrais faire en Eretz Israël, si tu y entrais? Je te le donne. Et Moshe a cessé de demander à entrer en Eretz Israël. Donc ça veut dire que Moshe faisait les mitzvot pour avoir le mérite. Alors, j'ai appris de mon maître que, en fait, Moshe Rabbeinu, quand il faisait ça, il voulait effectivement le mérite, mais il voulait le mérite pour le Klal Israël. Parce que il savait que le Klal Israël aurait besoin de ce mérite parce qu'il ne se conduira pas bien par la suite, et il voulait pouvoir mettre à la disposition du Klal Israël ce mérite-là aussi. Et donc quand on fait les choses pour le Klal Israël, ça ne s'appelle pas les faire pour soi. Maintenant, quand je vous ai dit, donc ça c'est une première chose, c'est-à-dire qu'il y a un pour soi. Alors, quand j'ai dit que c'était vraiment pour soi, hein, je veux dire la chose de la manière suivante. Hachem n'a besoin de rien. Et nous ne pouvons rien lui donner. Donc quand il nous dit, faites pour moi, c'est ce qu'on appelle faites l'ishma, faites de façon désintéressée, c'est-à-dire que votre motivation ne soit pas l'intérêt. C'est ce qu'il nous demande de faire. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on fait? Les retombées sont pour nous. Lorsqu'on fait les choses pour Hachem, Hachem fait en retour, si on peut parler, des choses pour nous. Donc, je sais que je vais en bénéficier. Quand je dis que c'est vraiment pour moi, c'est un savoir. Ça n'a rien à voir avec ma motivation. Ma motivation, c'est pas ça. C'est mon savoir. Si vous voulez, c'est un peu la même chose que quand vous donnez à quelqu'un un cadeau. Tout le monde sait que les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Mais si votre motivation, c'est d'entretenir l'amitié seulement, c'est-à-dire c'est quelque chose pour vous, vous voulez que la personne soit votre amie, etc., vous voulez l'acheter avec des cadeaux, il y a toutes sortes de... Enfin, il y a beaucoup de chances que ça ne marche pas du tout et que ça ait l'effet contraire. Pourquoi? Parce que votre motivation, d'abord, elle va se lire sur votre visage, sur votre façon de faire, etc. Mais l'autre va comprendre que, bon, comme vous disiez, on est instrumentalisé, que tu es en train de... Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors, pour ça, on ne fait pas de cadeau. Et quand je veux vraiment faire un cadeau à quelqu'un que j'aime et j'ai vraiment envie de faire un cadeau, qu'est-ce qui va se passer? Ben, je le fais. Parce que ma motivation n'est pas... Je sais que ça va arranger les relations entre nous. Je le sais parfaitement. Mais ma motivation, elle n'a rien à voir avec ça. J'ai envie de lui donner. Donc Hachem nous dit, faites pour moi que votre motivation se soit désintéressée. Maintenant, rien ne m'empêche de savoir la vérité. La vérité, c'est que Hachem, si nous nous conduisons comme il le demande, il nous rend... C'est la midata chesed. La mesure de générosité, elle est bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Et donc, on est béni, on est gagnant. Donc, je sais que c'est vraiment pour moi. Mais ce n'est pas du tout dans cette optique-là, dans cette, de cette manière-là que je fais les choses. Je l'ai fait pour lui. Je l'ai fait pour lui, tout, mais comme je sais qu'il n'a besoin de rien, que je ne peux rien lui donner, et que je sais bien ce que sont les effets de ce que je vais donner, c'est ça que je voulais dire quand je dis, je sais très bien que c'est vrai. C'est comme ça qu'on a vraiment les choses pour nous. En vérité, c'est pour nous. Mais c'est mon savoir, c'est pas ma motivation. Exactement comme dans l'affaire des cadeaux. Ça, c'est le deuxième problème. Et la première question que vous aviez posée, c'était
l'utilisation, l'emploi du verbe l'arasso.
Oui, alors, ce qui se passe, si vous voulez, c'est que mon cher Rabbeinu, quand Hachem lui a dit de construire le Mishkan, Moshe Rabbeinu a dit Hashamayim, Mushmeh Hashamayim, Lo Yechal Kelucha, les cieux ne peuvent pas te contenir, qu'est-ce que tu me demandes, moi, de faire une résidence divine, c'est une résidence pour Hachem, ça, c'est un non-sens, c'est impossible. Hachem lui a dit, c'est pas ton problème. Toi, tu fais ce que je t'ai dit de faire, Samanecha, avec tes petits trucs, tes petites combines, là, et moi, je résiderai. C'est mon problème à moi de résider, c'est moi qui m'occupe. Toi, tu peux effectivement pas me faire résider, même si le Bet Hamikdash avait été, ou le Mishkan avait été mille fois plus grand, tu n'aurais même pas pu me faire résider. C'est pas ton problème. Moi, je m'arrange pour résider, et comme dit Strazal, Hachem réside pas seulement dans le Bet Hamikdash, il réside entre les badim, entre les deux barres qui sont en permanence dans le Aron HaKodesh et qui et qu'on voit à travers le rideau dans le Bet HaMikdash, dans ce point-là il réside. Ou alors il parle sur le caporet, sur le toit sur le couvercle du Aaron. Donc si vous voulez, c'est pas du tout le la'asot, c'était vraiment ça, c'est que nous faisons et nous n'avons aucune idée de l'impact. Comment est-ce que mes gestes peuvent faire en sorte qu'Hachem réside ici? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'Hachem a dit, tu fais comme ça, faire, tu fais ça. Et c'est ça la caractéristique, si vous voulez, de cette assiya, c'est que ça nous dépasse complètement. On est invité à faire des choses qui nous dépassent complètement, mais je disais qu'en réalité, c'est le cas pour toutes les mitzvot. Les mitzvot ont un impact, et on n'arrivera jamais à comprendre pourquoi de secouer un bouquet à Sukkot, ça gouverne les vents et les pluies de toute l'année. Bon, c'est ce que Rashi dit. Il faut toujours essayer de secouer votre bouquet. On ne sait pas. On n'a aucune idée du comment c'est possible. Seulement la Torah nous a prescrit ce genre de comportement, ce genre d'action, en l'occurrence. Faites cela. Et moi, et Hachem nous dit. Voilà l'impact, y compris si vous faites ça, alors je vais tziviti et birchati, je enverrai ma bracha, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? Je sais bien qu'Hachem va envoyer sa bracha si je respecte la Shemitah. C'est pas une raison pour pas la respecter, parce que sinon j'instrumentalise Hachem en faisant en sorte qu'il me donne la bracha. C'est pas ma motivation. Ma motivation, c'est je fais ce qu'Hachem m'a demandé de faire. Il faut faire la part des choses, il faut vraiment faire démarquer complètement la motivation d'un côté et le savoir qu'on a des choses. D'accord. Plus on a de chokhma, plus on sait comment fonctionnent certaines choses, et néanmoins, je n'ai pas à en tenir compte. C'est justement ça le lishma. Lishma, ce n'est pas simplement faire les choses de façon désintéressée pour celui qui ne sait pas les choses. Mais je sais les choses. Je sais que j'ai intérêt à le faire. Et néanmoins, mon travail, c'est de le faire de façon désintéressée, au sens où ça n'est pas ma motivation. Il y avait que trois questions. Dvarim c'est 2 et Hadvarim c'est 3. J'essaie de montrer. J'ai dit que notre travail, c'est une construction du futur. J'ai essayé de montrer qu'il y avait plusieurs types de futur. Il y a un futur, que j'appelle un faux futur, d'accord, qui est en fait presque un présent. Ça, c'est au fait. Et que Zoréa, c'est un vrai futur, parce qu'il y a toutes sortes d'éléments dont j'ai besoin, que je ne maîtrise pas du tout. Et ce que je voulais montrer, c'est que, bon, effectivement, dans les mitzvot, une vraie mitzvah, une vraie melacha, c'est une construction du futur. Et que, par exemple, il y a plusieurs façons de construire le futur, par des actes, et puis il y a par la prière, qui est aussi une forme de construction du futur. On construit ce qu'on appelle la volonté d'Hachem, si on peut parler comme ça. Oui, mais c'est moi qui l'ai mis au four. J'étais libre, je pouvais le mettre ou ne pas le mettre.
Oui.
Ah, j'ai fait un geste et maintenant voilà.
Mais à partir d'un élément donné, il a
poussé. Vous savez, si vous plongez un couteau dans un poulet, il va mourir. Enfin, disons, si vous le placez bien. Et c'est une conséquence obligatoire. Je m'arrangerai pour que tu ne la comprennes pas. Non, je m'excuse, j'ai peut-être. C'est pas en termes de gravité. Alors, tous les deux ont la même gravité. Non, c'est pas la gravité. Alors, en fait, c'est très arbitraire. C'est ce qui est primaire, c'est ce qui existait au Mishkan, et plus exactement ce que les Chachamim, ce que nos maîtres ont jugé exister au Mishkan. Ils ont dit, ça existait. Alors, des fois c'est un peu difficile de savoir comment ça existe. Ça existait, mais bon. Et ensuite, ce qui est secondaire, c'est ce qui est analogue. C'est les travaux qui sont analogues. Et l'analogie, elle est plus ou moins bonne, plus ou moins serrée en quelque sorte. Alors, certains cas, dans certaines circonstances, quand c'est vraiment quasiment analogue, on dira qu'on a deux avot. Je donne un exemple. Il y a un double av qui s'appelle, justement, dans ce qu'on a utilisé, Zoréa, c'est semer. Et il y a Notea qui est planté. On dit, c'est exactement la même chose, seulement l'un est dans les graines et l'autre dans les arbres. D'accord ? Les deux sont av. Il n'y en a pas un qui est av et l'autre qui est tolda. Parce que l'analogie est trop forte, en quelque sorte. C'est exactement la même chose. Seulement un dans les graines et l'autre dans les plants, dans les arbres. Ou bien par exemple, au fait, c'est faire cuire le pain. Et qu'est-ce qu'il y a avec cuire un rôti? Bichoul, c'est aussi la même chose, c'est aussi un ave. Là, c'est une autre raison. Pourquoi on a choisi celui-là plutôt que l'autre, en vérité, on se demander. Alors, la règle, c'est que pour une grande partie des travaux, on a choisi ceux qui, en plus d'avoir été au Mishkan, sont nécessaires à la fabrication du pain. C'est pour ça qu'on a pris la graine plutôt que le plant, plutôt qu'un arbuste. Et c'est pour ça qu'on a pris Ophé plutôt que Mevachel. Donc, ça c'est dans les Avot. Puis ensuite, on a fait des analogies. Par exemple, on a dit que si quelqu'un élague, que élaguer, bon, ben, on voit élaguer comme faire pousser. Donc je dirais que élaguer, c'est une tolda de faire pousser un arbre. C'est-à-dire une tolda de notéa. D'accord ? Et donc, ça c'est un travail que les Chachamim ont fait, et qu'on fait encore aujourd'hui dans les nouveaux travaux. C'est-à-dire, quand il y a des choses nouvelles, techniques ou autres, on doit se demander à quel ave, ou dans quelle catégorie, dans laquelle des 39 catégories on va le mettre.
Quelque chose que je ne comprends pas, c'est que vous parliez alors précisément du Melachot qui était donc dans la salle, qui est entré, qui se faisait par la parole, sauf pour le Metro, donc qui était en fait généralement consacré. Or, ce sont des. Quels sont les Melachot qui se caractérisaient par ça?
Non. Non, alors, la Achnasa, faire entrer, c'est une tolda de faire sortir. Parce que Chazal disent, il n'y a pas de différence entre aller dans un sens ou dans un autre. Mais néanmoins, ils ont quand même fait une différence. Ils n'ont pas dit que tous les deux étaient un Av. Enfin, c'est une discussion, mais enfin, ils n'ont pas dit que tous les deux étaient un Av. On a considéré, c'est ce que j'ai dit, malgré tout, c'est quelque chose de deuxième catégorie, et c'est difficile de comprendre pourquoi c'est la deuxième catégorie, et surtout que cette deuxième catégorie, c'est peut-être pas la bonne terminologie, catégorie, mais que ce soit une tolda qui joue des rôles aussi fondamentaux, je veux dire, avec la parole qui est la caractéristique de l'homme, avec la faute de Moshe Rabbeinu, c'est difficile de comprendre que ce genre de travail-là n'est qu'une tolda, en fait. Que j'aurais eu tendance, moi si on m'avait demandé, j'aurais dit que dans la construction du Mishkan, la démarche la plus importante, c'était non pas d'amener le matériau sur le chantier, mais c'est de dédicacer le matériau et de dire ce matériau est Kodesh. Or, c'est pas ça qui est présenté. D'accord ? Puisque amener sur le chantier, c'est Hotsaha, on le prend chez soi, on l'amène sur le chantier, ça c'est le Hav, et le désigner comme étant Kadosh, c'est un deuxième temps. Et c'est seulement une tolda.
Chez soi, en fait, j'ai des problèmes complètement parce que chez soi, c'est sur les chariots, c'est chez soi.
Par exemple, ou chez soi, vraiment chez soi.
C'est le public, c'est ça. En fait.
Non, le quoi le chantier, c'est le public.
Le chantier, c'est le public.
Oui, et il n'est pas encore Mishkan, il est en train d'être construit.
Non, c'est toujours chez soi, c'est le Mishkan. Et donc,
non. Chez soi, c'est le. Enfin, sauf si tu es Dieu.
Exactement, non, mais tu t'établis.
Ça va, c'est suffisamment embrouillé pour que.
Je crois que je pourrais poser la question quand même.
Vas-y.
Bon, en fait, justement, par rapport à ce problème des besoins du monde et à ce qu'il faudrait faire comme Yaakov, je me demandais s'il n'y avait pas un lien justement avec l'idée de faire sortir ou de faire entrer. Et finalement, est-ce qu'on pourrait dire que la tâche qui est celle de Jacob, qui est de travailler le modèle du monde en écrivant la Torah, d'une certaine façon, ce serait donc faire entrer le monde
et le travailler.
Donc, ce qui est finalement, si donc
le tolda,
curieusement, c'est en fait le secondaire.
Oui.
Parce que alors que ça pourrait apparaître fondamental en réalité.
Oui, parce que le problème, c'est est-ce que c'est secondaire parce que c'est au service de l'expansion ultérieure. Une fois que tu l'auras travaillé, tu vas aller sur le terrain et appliquer ce que tu as travaillé dans ton laboratoire. Tu as fait les expériences en laboratoire et maintenant, concrètement, tu vas aller sur le terrain et le faire.
C'est ça. Et donc, c'est secondaire au sens où finalement, c'est bien que ce soit, ça apparaît, c'est ce qui apparaît pour le plus difficile. Mais en réalité, en dehors de la difficulté intellectuelle, etc. Ce qui semble peut-être le plus difficile, la plus grosse épreuve pour nous, celle qu'elle n'a pas voulu prendre Yaakov, mais quand on étudie ce passage, on voit qu'en réalité, c'est de toute façon ce à quoi il était véritablement destiné. Il fait rentrer et il travaille le monde. Le problème, c'est que quand on se fait sortir les choses, autant la concentration, c'est un travail dur, mais c'est un travail où on ne perd pas les choses, autant l'expansion contient toujours un risque de perte. Et c'est ça le problème. On sait très bien que les Juifs, quand ils se mêlent des affaires du monde, généralement, ils perdent leur Torah. Ils apportent des valeurs qui sont des étincelles, qui sont, enfin, ou qui sont parfois déformées, etc. Mais en réalité, leur Torah, à part quelques exceptions archi connues, c'est ça le problème. Le problème, c'est celui de la perte. Alors, est-ce que ce ne serait pas pour ça que finalement on nous dirait que le travail le plus lourd, le travail faire, c'est effectivement de faire sortir de l'expansion, mais finalement c'est un travail, on nous dit à la fois c'est un travail extrêmement important, ce que disent nos maîtres, qui doit être fait, mais en même temps on nous dit que c'est un travail très lourd, un travail très très dangereux, et finalement est-ce que c'est pas un travail auquel on doit presque être appelé, on doit être presque appelé de force. Vous nous racontez toujours l'histoire du Rachar qui en réalité a fait le travail de Yaakov pratiquement toute sa vie, et à un moment finalement c'est d'en haut qu'on lui fait signe pour lui dire, c'est comme ça qu'on le lui a expliqué, maintenant ça y est, c'est le moment de l'expansion pour continuer à vivre. Mais que finalement, est-ce que finalement nos maîtres critiquent Yaakov, mais en fait on sait que les maîtres ne critiquent pas Yaakov, ils nous donnent juste une idée par rapport à ce qu'a fait Yaakov. Ils nous disent voilà ce qu'a fait Yaakov, et si Yaakov l'a fait, c'est comme ça que ça doit être fait. Et maintenant sachez qu'il y a un travail qui va au-delà, qui est encore plus lourd, qui est ce travail d'expansion qui a à être fait. Mais maintenant, à part quelques-uns, peut-être qu'effectivement est-ce que ça c'est pas un travail qui se fait de soi-même ou par le Mashiach. Et alors en fait cette idée du social dont vous avez parlé, je me demandais si c'était pas peut-être ça un intermédiaire acceptable et un petit peu moins risqué pour ceux qui ne sont pas le Rachat ou Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire finalement créer ces microcosmes, ces groupes qui ne sont pas forcément des groupes uniquement juifs d'ailleurs, mm-hmm. Qui sont des groupes de gens qui en fait qui connaissent, qui veulent connaître. Et est-ce que ce n'est pas finalement la possibilité de faire quelque chose de ce domaine, est-ce que, justement qu'on nous enseigne, qui n'est plus celui effectivement de la concentration unique, qui est un travail sur le monde, sur les besoins du monde, mais qui n'est pas le risque d'explosion, de dispersion et de disparition, puisque précisément on a donné ce travail au peuple juif de continuer à exister, que notre première mission avant même de travailler sur les besoins du monde, c'est tout bêtement de continuer à exister, et c'est pas très très facile toujours.
Non, je pense très bien, c'est si tu veux, j'ai rapporté l'expansion à l'intérieur du peuple juif, on voit très bien que l'expansion se fait très doucement. 12, 70, d'accord, puis ensuite les 600 000. On n'a pas passé de 1 à 600 000. D'accord, il y a des étapes, et dans les Sfarim, on dit que tant que les 70 étaient encore vivants, on ne pouvait pas passer à l'étape de 600 000. C'est-à-dire, tant que les Yosef et ses frères étaient encore vivants, on pouvait pas, il n'y a pas eu l'explosion démographique en Égypte qui a fait passer le peuple à des milliers de gens. Il fallait d'abord qu'ils soient tous morts. D'accord, on a fini cette étape-là, comme s'il y avait des paliers. Cette idée de dans l'expansion, effectivement, on ne peut pas gérer une expansion trop rapide. Ça explose sinon. C'est pas, dans le moteur à explosion, on veut justement qu'il n'explose pas. On veut gérer l'explosion. D'accord, donc il faut savoir. Disons en l'occurrence, par exemple, il faut avoir des paliers. Et on a mis des paliers, c'est vrai, tu as raison. Seulement, ce que je ne sais pas, je n'ai pas regardé encore une fois ce midrash, mais pourquoi les Chachamim sont. Je ne sais pas s'il y en a un seul qui défend Yaakov là, dans ce midrash là-bas. C'est-à-dire que, malgré tout, ils vont quand même très très fort à dire. Ben, je crois que. Peut-être que ce qu'ils n'ont pas supporté, c'est qu'il ait donné du Adoni, du bon Seigneur. C'est-à-dire que, à la limite, laisse-le faire, mais ne l'accepte pas comme ton Seigneur. Mais bon,
si Yaakov a fait comme ça, c'est qu'il pensait que ça ne pouvait pas se faire autrement. Quand il a donné du Monseigneur à Esav, c'est qu'on ne pouvait pas demander à Esav de mater le monde et de dire, ouais, tu mates le monde, mais bon, tu n'es jamais qu'un vaurien. Tu es obligé de dire que tu mates le monde et bon, ben, tu en es le maître. Et je suis dans ton monde. Je suis dans ma tente, mais néanmoins dans ton monde. Alors, probablement tu as raison, que c'est une façon de faire que d'en passer par une expansion lente, quoi. Pas passer tout de suite à. Et effectivement, là c'est important, effectivement, de n'entrer dans cette phase d'expansion que quand on ne peut pas faire autrement. À la fois Esther, d'accord, bon, il faut faire, mais quand on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que c'est ça ou la mort. Et c'est pratiquement ce qu'on a dit à Rav Charles. Ne vous cachez pas derrière.
Mais on dit aussi les Jacob, Yosef, c'est-à-dire que le fait que Yosef puisse soit allé sur le terrain comme après pour faire une arnassa de ce terrain vers la sainteté.
Ben lui non plus, il n'a pas choisi. Hein. Hein? Il n'a pas non plus choisi d'y aller.
Non, mais c'est à l'inverse de Jacob.
Oui, non, mais il n'a pas choisi d'y aller.
Il s'est présenté comme une fois là.
Oui, c'est ça. Ouais. Bon, c'est la dernière séance de ce cycle. Alors, il y a un deuxième cycle. Si vous n'avez plus de questions, alors il y a du café, du thé. Quelqu'un ?
C'est possible ?
Oh, oui, bien sûr.
Quand on utilise l'expression Avodat Hashem,
on n'a pas de terme pour dire idolâtrie. Ce qu'on dit, c'est un service qui est étranger. On voit dans la paracha qu'on est en train de lire. Le service étranger, en l'occurrence, qui peut très bien être le fait des deux plus grands maîtres vivant à ce moment-là dans le peuple juif, Nadav et Abihu, dont Moshe dira à Aaron après leur mort qu'ils étaient plus grands que nous, dira Moshe à Aaron, et ce n'est pas des paroles de consolation qui tiennent pas debout, il lui dit, c'est marqué, Hachem avait annoncé Bikrovaï et Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont le plus proches, et Moshe a dit à Aaron, il a dit, je croyais que ce serait toi et moi. Et ce sont eux, ça veut dire qu'ils étaient plus grands que nous. Nadav et Abihu étaient des géants. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est les gens qui pensaient que, voilà, maintenant on est dans une période de vitesse de croisière. Quand les Israël sont sortis d'Égypte, c'est l'enfance, c'est si vous voulez l'enclenchement, c'est une vitesse de, c'est pas des phénomènes normaux. Quand vous allumez un interrupteur, il se passe à l'instant où vous allumez toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec ce qui va se passer par la suite, alors qui sont des moments de crise en quelque sorte. Comme une naissance. Et il disait, bon, pendant cette période-là, il fallait que le clan d'Israël soit guidé, il a été guidé par Moshe et Aaron. Mais maintenant, disait Nadav et Abihu, maintenant nous sommes là, et nous sommes capables maintenant de fonctionner normalement. Et par conséquent, quand Hachem a dit à l'inauguration du Mishkan, vous n'allumerez pas de feu. Alors, si vous voulez, il faut vous souvenir que ce dont il s'agissait, c'était d'amener ce qu'on appelle le ktoret, c'est-à-dire ils amenaient des parfums, de l'encens, à brûler. Quand, chez vous, quand vous invitez quelqu'un, vous l'amenez pas d'abord à la cuisine pour voir comment on fait la tambouille, puis ensuite, vous savez pas, vous servez les plats, joliment, etc. Donc, en vitesse de croisière, nous aujourd'hui, si on apportait du ktoret, si on amenait de l'encens, on l'allumerait en dehors, en quelque sorte, et quand le nuage odorant aurait vraiment pris, quand ce ne sera plus que de la bonne odeur, à ce moment-là, on l'amènera comme vous faites si vous amenez des bougies ou des parfums chez vous. Ben vous ne mettez pas le feu devant les invités, vous allez mettre le feu à ces parfums à la cuisine, et quand ça a bien pris, quand on est sorti de la phase d'allumage, alors vous amenez ce nuage odorant. Et donc Nadav Verviou disait, eh bien, nous on va allumer, on va amener déjà allumé. Et Hachem a dit non, vous amenez l'encens et le feu viendra du ciel. Il dit mais on dit non, on va faire mieux, on n'a pas besoin de ça, on n'est plus dans la phase de départ où on n'a pas besoin de nous allumer en quelque sorte le feu, on sait l'allumer tout seul. Et Hachem ne voulait pas, parce qu'Hachem voulait que, si vous voulez, c'est déjà toute une affaire de savoir que le Mikdash en général, le Mishkan aussi, c'est un lieu où on peut très facilement oublier Hachem, parce qu'on est tellement pris par la technique. On peut complètement oublier Hachem. On est occupé, là il faut courir ici, il faut ici faire la shrita, ici il faut recueillir le sang, etc. On peut complètement oublier Hachem. On est pris complètement par le fonctionnement. Et on perd le sens du « mais pourquoi on fait tout ça ?» Alors Hachem a voulu frapper un grand coup en quelque sorte, qu'à l'inauguration on voit bien que c'est lui qui nous permet de faire les choses. C'est lui qui allume le feu. Et ce ne sont pas les hommes. Bien montrer aussi qu'il est impossible que les hommes prennent l'initiative de faire fonctionner la résidence divine, si vous voulez, par eux-mêmes. Il faut qu'Hachem leur permette ou leur en donne la possibilité. Donc Hachem a dit, c'est moi qui envoie le feu initial. Et eux n'ont pas voulu obéir parce qu'ils étaient déjà à la phase de vitesse de croisière. Et donc le feu est descendu, il les a brûlés. Mais c'était les plus grands, et ce qu'ils ont fait là, avec les meilleures intentions du monde, c'est pas à dire on va servir Hachem mieux que ce qu'il nous demande, c'est appelé Esh Zara, c'est le mot qui est dans Avodah Zara, c'est Esh Zara, un feu étranger, ça veut dire c'est pas ce que j'ai demandé. C'est ce que je vous ai dit, dans la construction du Mishkan, on n'a aucune, dans le fonctionnement du Mishkan, on n'a aucune latitude. Aucune latitude. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, on joue avec le feu. On joue avec le feu. Si on bouge un tout petit peu, on est dans l'idolâtrie. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence. Toute la différence, elle est dans la Kavana, elle est dans à qui on s'adresse. Et Hachem a dit, voilà comment je veux être servi. Si vous me servez autrement que ce que je veux, c'est votre façon de faire, c'est Zar, ça m'est étranger. Zar, ça veut dire, c'est vraiment étranger. Moshe Rabbeinu, il est, par rapport à ça, il est Zar. Si Moshe Rabbeinu fait la Avoda, dans le Mishkan, il est Chayav Mita. Alors que le petit Kohen, etc., qui la fera, qui s'est toujours distingué entre sa main gauche, sa main droite, plus peut-être, lui, il peut le faire. Parfait. Mon cher Rabbeinu le fait, il est passible de mort. C'est ça. Tu fais exactement ce qui est prescrit, sinon ça ne marche pas. Parce qu'on joue avec le feu. Parce qu'en fait, on peut le dire en termes de tolérance, comme Rambam dit dans le Guide des Égarés, que c'est une tolérance par rapport au moment, etc. Ou on peut le dire simplement qu'on joue toujours avec le feu, c'est très dangereux de servir Hachem, parce que l'idée même qu'on puisse servir Hachem, c'est une idée étrange, parce que nous n'avons pas l'habitude de servir quelqu'un qui n'a besoin de rien. Même le plus grand roi, on peut toujours lui donner quelque chose qu'il n'a pas. Servir Hachem, c'est presque contradiction dans les termes. Tu ne peux pas servir Hachem. On ne peut pas rien lui donner. On peut pas le servir, ça veut dire qu'il aurait un profit de ce que je suis en train de faire. Il n'a aucun profit. Il ne peut pas avoir de profit de ce que je fais. Et donc, c'est impensable quasiment de servir Hachem. C'est en ça qu'on peut entendre que c'est quasiment une tolérance. C'est qu'on est pratiquement dans la Avodah Zarah, sauf si vraiment on tient très très fort exactement ce qu'Hachem a dit. Vous faites ça, c'est bon, c'est la Avodah. Vous faites un pas à côté, c'est fini, c'est la Avodah Zarah. Le Beit Hamikdash, c'est quelque chose de très dangereux. D'ailleurs, si vous regardez dans le Tanakh, ce qui revient sans arrêt, c'est qu'Hachem considère, il dit, je n'ai rien à faire de tout ce que vous me donnez, des corbanotes, etc., que vous approchez, alors qu'à l'extérieur, vous conduisez comme des crapules. Il y a encore un autre écueil, n'est-ce pas, c'est de prendre le Beit Hamikdash pour un temple. C'est-à-dire, de dire, voilà, c'est ici qu'on sert Hachem, mais là, on n'a pas besoin. Donc là, on peut se conduire comme des crapules, et on aura des intelligences, etc., du système. Et c'est ce que c'est l'écueil. Les Bnei Israël ne s'en sont pas sortis. On a perdu le Beit HaMikdash quand on l'avait. Pour parler comme la palisse. Ça veut dire qu'on n'a pas géré la chose. Mais parce que c'est presque impossible de gérer la chose. Comment penser qu'on peut servir Hachem à cet endroit-là, mais qu'en vérité, il n'y a aucune différence entre cet endroit-là et l'autre. On ne peut pas dire qu'Hachem est plus ici que là. C'est un non-sens. Comment tu sers ici?
Il y a une différence parce que justement c'est ce lieu qui est désigné. Il
oui.
devient Kodesh parce que c'est ce lieu qui devient Kodesh par l'action de l'homme
oui.
et non pas en soi.
Bon, c'est. Vous dites bien, c'est juste. Ça devient. Mais c'est parce qu'Hachem l'a prescrit, sinon on ne deviendrait pas. Et ça c'est difficile. C'est difficile, c'est impensable quasiment.